Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Elles nous ont fait vivre un formidable moment dans ce même studio le mois dernier pour la sortie de leur album. Les Parisiennes sont désormais sur scène aux Folies Bergères. Steven Bellery a assisté à leur spectacle. Sur France 2 ce soir, le choix d'Isabelle Morelli-Bosque, Retour aux sources, l'émission présentée par Marie Drucker. Une célébrité enquête sur son passé familial. Franck Dubosc part à la recherche de son grand-père, évadé à plusieurs reprises des camps allemands pendant la guerre. Olivia Lorraine nous proposera ses express du jour. Et Arnaud Mulpa nous racontera la BD RTL du mois avec Édouard Luns, le cinéaste des âmes inquiètes, l'histoire vraie d'un réalisateur totalement oublié.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Et nous commençons avec une idée de sortie. Elles avaient fait le show dans notre studio il y a un mois après avoir sorti leur album. Les Parisiennes viennent de débuter leur spectacle. Elles ont pris leur quartier aux Folies Bergères à Paris jusqu'au 3 juin avant de partir en tournée cet automne. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous étiez à la première, bien entendu, jeudi dernier.
Elles apparaissent en contre-jour, chacune debout devant un spot vêtu d'imperméable très très court.
Les Parisiennes sont toujours pressées, pressées. Les Parisiennes ne s'arrêtent jamais, jamais.
Ariel Dombal, Mareva Galanter, Ina Moja et Elena Noguera tombent la veste, leur robe en strass bleu et blanc scintille jusqu'au balcon. Quatre musiciens jouent en live et quatre danseurs les entourent. Les chanteuses saluent la foule et glissent quelques anecdotes sur Claude Bolling, créateur des Parisiennes en 1964. Puis le groupe enchaîne. Leur petit micro-casque invisible, les Parisiennes virevoltent pendant près d'une heure et demie. Elles dansent en prison, dans une décapotable, avec des paniers à salade ou dans leur dressing, chorégraphié, millimétré par Stéphane Jarny. Le spectacle ressemble plus à une revue qu'un simple concert, un show sans temps mort au rythme effréné où le quatuor ressuscite avec élégance le répertoire de leurs aînés.
Ne fais pas le bonheur, celui qui a dit ça est un sacré menteur. Ne fais pas le bonheur. Nous quand on nous dit ça, on s'écroule en fleurs.
Leur complicité n'est pas feinte, pas de croche-patte entre les Parisiennes qui chantent presque toujours à l'unisson, mais pas seulement, et qui se changent une bonne douzaine de fois, aidées par des interludes vidéo incarnées par la chanteuse de Mon cœur, mon amour en 2006, l'impeccable Anaïs qui a du mal à garder son calme.
Madame, mademoiselle, monsieur, veuillez nous excuser à nouveau pour cette interruption momentanée, absolument imprévue, totalement inattendue, due à un mouvement syndical du personnel. En effet, il s'agirait des revendications. Oh, et puis la barbe. Je les comprends, moi. Pendant ce temps-là, tous les patrons gros et gras sont en vacances, en train de se dorer la pilule et de ploter les seins des starlettes sur leur bateau à Saint-Tropez.
Anaïs, excellente dans le rôle de la speakerine, belle trouvaille.
Les Parisiennes réussissent-elles à faire oublier le groupe original, Steven ?
Alors non, car on retrouve tous les codes des Parisiennes d'antan. Ariel, Mareva, Ina et Elena jouent à fond avec le vintage, l'autodérision et l'esprit 60s. Leur spectacle est en cela autant un hommage qu'une création. Et oui, parce qu'elles insufflent une vraie fraîcheur et leur personnalité aux chansons yéyé. Des titres courts, incisifs, addictifs, confidence du girls band.
C'est merveilleux d'avoir en effet des airs qui tout de suite... Les gens les attrapent et on les chante toute la journée. C'est assez rare tout de même. Nous sommes toutes quatre des chanteuses. On n'est pas juste des danseuses. Parce que je crois que les Parisiennes étaient avant tout des danseuses.
Oui, on est des filles d'aujourd'hui, donc c'est un remake à la sauce d'aujourd'hui. Donc on a des robes d'aujourd'hui et puis ce sont nos voix.
Les voix ont aussi été une évidence, c'est-à-dire qu'elles se sont mises toutes seules. Elles se sont imbriquées les unes sur les autres et on ne s'est pas vraiment posé la question, honnêtement. On est rentrées en studio, 3 à 4, c'est parti, on a chanté. Chacune a chanté comme elle sait chanter.
Pour les réinvestir de manière moderne, tout en ne faisant pas des pastiches, ça fait quelque chose d'inédit, complètement catchy. parce que c'est des tubes.
Je pense que la complicité ne se travaille pas. Ça se passe ou ça ne se passe pas. Chez nous, ça a été plutôt immédiat. C'est très agréable.
Mon café, boum, bang, bang, boum, bang, bang.
Live, c'était jeudi dernier, c'est Boom Bang Bang, l'un des plus jolis tableaux du spectacle des Parisiennes. Elles sont dans l'obscurité, en toute petite tenue et habillées grâce à des lumières projetées sur leur corps. Très jolies, les Parisiennes sont au... Elles gardent la culotte. Les Parisiennes sont aux Folies Bergères jusqu'à dimanche, en tournée dès le 20 octobre, le 3 novembre à Lyon, le 9 novembre à Marseille ou encore le 17 novembre à Strasbourg, tarif de 22 à 50 euros.
Et adoré aussi.
Saluer notre ami Laurent Ruquier. Moi, il y a quelque chose que j'adore avec les Parisiennes.
Bah oui, c'est
que
formidable.
Je comprends tous les textes. La chanson française aujourd'hui, parfois, faut se concentrer. Voilà. Et ben avec les Parisiennes, je comprends tout. Et elles amènent un vent de fraîcheur merveilleux qu'on avait vécu avec elle ici.
Je vais y retourner.
Pourquoi vous l'avez déjà vu le spectacle?
Je l'ai vu samedi et je vais y retourner samedi prochain.
Bon, je vais tout faire.
Peut-être monter sur scène.
Les Parisiennes sur scène aux Folies Bergères. Merci beaucoup.
Et en tournée à l'automne. Ouais.
Et en tournée à l'automne, on a passé un excellent moment. Dans un instant, Olivia est avec nous pour ses Express.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Nos Express du jour, livrés bien entendu par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
Le théâtre à la fête hier soir avec la cérémonie des Molières.
30e édition, présidée par Zabo Breitman. Et parmi les lauréats, 4 prix pour la pièce Adieu Monsieur Hoffmann, 2 est mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Molière du comédien d'un spectacle privé pour Jean-Pierre Daroussin dans Art. Molière seul en scène, Vous n'aurez pas ma haine, mise en scène de Benjamin Guillard. Et puis la comédienne Blanche Gardin reçoit elle le prix de l'humour, un prix remis par elle-même.
Et le Molière est attribué... Attends, je le savais, c'est moi. Voilà. Non mais voilà, je le savais, c'était sûr. C'est aussi pour ça que je voulais le remettre, parce que je voulais pas déranger toute une rangée en me retenant de pleurer. Comme... Bon, attendez, je suis la seule femme nommée l'année de l'affaire Weinstein. Ça, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Le jour où j'ai un prix, il a aucune valeur. C'est vraiment ça. C'est dommage, c'est vrai.
C'est extrêmement drôle.
On regarde un prix de l'humour et on comprend pourquoi. Oui.
Véronique Dicker, bientôt de retour avec un tout nouveau spectacle.
L'imitatrice québécoise repart sur les routes françaises avec un troisième spectacle. Coup d'envoi le 5 mars 2019 à Mérignac. Elle s'installera notamment du 28 au 31 mars 2019 au Grand Rex à Paris. Véronique Dicker promet une production inédite avec de nombreuses nouvelles voix. Mais elle n'oublie pas ses classiques à l'instar d'une autre Véronique Sanson.
Et je me demande.
Véronique Dicker va assurer toutes les premières parties de Céline Dion cet été, de Tokyo jusqu'à Auckland.
Eh ben, ça doit être du travail, ça aussi. Hein. La prochaine rentrée littéraire se prépare et deux romans font déjà parler d'eux.
Les Idéaux, publié le 22 août prochain par Aurélie Filippetti, ancienne députée et ministre de la Culture socialiste. C'est le récit d'un amour entre deux députés que tout oppose, lui de droite, elle de gauche. Aurélie Filippetti avait déjà publié deux romans en 2003 et en 2006. Et puis, Tuer...
Je crois que c'est une situation qu'elle a connue.
Et oui, exactement. Et puis, Tuer Jupiter, qui sortira le 23 août. L'auteur de romans noirs, François Médéline, imagine et reconstitue un complot pour assassiner le président de la République. La date du crime est précise, le 2 décembre 2018.
Daniel Buren exige le retrait d'une œuvre de street art au Palais Royal.
Le ministère de la Culture a en effet dû démonter une œuvre d'art installée sur des colonnes de la galerie du Palais en face de ses célèbres colonnes noires et blanches. L'artiste a fait valoir son droit moral, indiquant qu'il n'avait pas été prévenu de l'installation.
Enfin, la grève entre dans sa deuxième semaine à la Comédie Française.
La première de la Locandiera de Carlo Goldoni a été annulée. Poussière et l'éveil du printemps sont par exemple joués sans décor. Depuis mardi dernier, le fonctionnement de la salle Richelieu est perturbé par un mouvement d'une toute petite partie des techniciens.
Merci beaucoup Olivia Loret. On va passer maintenant à la télévision. Isabelle Morini-Bosque, on commence par les audiences d'hier avec Médiamétrie.
Vite fait, bien fait. 6 900 000 téléspectateurs piquent à 7,5 millions pour le match de football France-Irlande sur TF1, 30% du public. Mais la garçonnière rassemble tout de même près de 3 millions de fanas de théâtre sur la 2. Et la cérémonie des Molières, 1 100 000 tout de même ensuite. Ça a démarré à près de 23 heures. Et alors, eh bien, côté TNT, c'est W9 avec 58 minutes pour vivre qui est largement en tête avec plus d'un million de téléspectateurs.
Alors, on va parler des programmes de ce soir. On va d'abord évoquer l'actualité télé de notre camarade Julien Courbet qui, on l'a su donc officiellement hier, va passer de C8 à M6.
Oui, C8 où cette année, il a assuré avec vraiment beaucoup de succès. Ce n'est que de la télé à 17h45. Alors, j'avais suivi les négociations avec M6, mais si c'était décidé, rien n'était finalisé, tout était évolutif sur le fond et la forme. Jusqu'à récemment, une indiscrétion ayant hâté l'officialisation en milieu de journée hier, c'est subséquemment chez Marc-Olivier Fogiel que Julien Courbet s'est exprimé hier pour la première fois sur le sujet. Voici sa réponse à la question « Qu'allez-vous faire ?»
Je ne vais pas vous répondre pour deux raisons. La première, c'est parce que la direction d'M6, pour l'instant, veut garder un peu le secret là-dessus. Et deux, parce que très honnêtement, ça a évolué entre ce qu'on a convenu et aujourd'hui.
Ça mais l'adaptation de votre émission sur RTL, sur le groupe M6, non. Ça peut être une possibilité, ça ?
Non. Telle qu'elle est là, non, pas du tout, parce que voilà, il faut passer à autre chose. Par contre, ce qu'il y a plus M6 dans mon profil, je crois, c'est qu'on est sur le même environnement. Mm-hmm. Moi, toutes les émissions que j'ai conçues tout au long de ma carrière auraient pu être des émissions d'M6.
Ça, juste, puisque j'ai bien compris que vous n'en aurez pas plus sur ce que vous allez faire, mais quotidienne ?
A priori, non, pas au départ, non. Vous allez voir, ça va être quelque chose d'assez surprenant, et c'est pour ça, je pense d'ailleurs, que M6 a décidé de garder le secret. Mais un beau projet, en tout cas.
Moi, quoi que Julien fasse, je suis cliente. J'aime tous les Courbet, le peintre et l'animateur.
À propos d'M6, on signale ce soir The Island Célébrité, émission que, je le rappelle, vous avez failli faire.
Et que je regrette toujours pas avoir pu faire. L'émission m'intéresse surtout par l'évolution des comportements des vedettes obligées d'être solidaires pour se porter 3 semaines en condition de survie. Notamment le patineur Wendal Pesra, formidablement serviable. La petite chanteuse Priscilla, toujours positive. La chanteuse Lame, en revanche, touche le fond. L'âme de fond, on le répète. Écoutez-la avant le départ et ce soir.
Alors l'hygiène, ça va être horrible pour moi parce que l'âme et la nature, ça fait deux. Je déteste me retrouver dans la forêt comme ça, dormir en plus dehors, comment se laver, on va sentir le poisson, je sais pas, c'est horrible. Le plus difficile pour moi, c'est de me montrer telle que je suis dans la vraie vie, sans maquillage, sans perruque, sans cheveux, sans rien. C'est la première fois de ma vie que je fais ça.
Dès le premier jour, la chanteuse n'a pas été épargnée. Piqûres de moustiques, manque de sommeil et de nourriture l'ont totalement découragée.
T'as faim?
Non, merci.
C'est vrai?
Non, un coup de blues. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Franchement, c'est trop dur.
Voilà, la suite ce soir à 21h sur M6. Mike Horn voulait les sortir de leur confort égoïste et il maintient le cap. Horn, évidemment.
Évidemment. Alors, côté fiction, on rappelle L'Arme fatale sur TF1.
Oui, excellente adaptation talonnée par la série Tandem sur la 2. Cette femme flic obligée de travailler avec son ex. Les deux font la paire et parfois même la paire de claques. Regardez ce soir.
Mais vous avez craqué pour l'émission Retour aux sources qui est proposée à 23h15 sur la seconde chaîne. Comme on disait quand j'étais enfant. De quoi s'agit-il, Kezako?
Eh bien, écoutez, Kezako, un programme qui tente de survivre depuis 2010 pour cause de programme extrêmement chaotique. Le concept, la généalogie, une vedette remonte dans son arbre, si j'ose dire. C'est le producteur Arnaud Poivre d'Arvor qui en parle le mieux.
Alors rapidement, retour aux sources. Le principe, c'est une personnalité qui remonte son arbre généalogique sous forme d'enquête. Et à travers son histoire familiale, on découvre la grande histoire. Voilà. Retour aux sources, c'est une expérience très émouvante pour la personnalité qui revient sur les traces de ses ancêtres. On n'a pas forcément besoin de remonter très très loin. On peut s'intéresser aussi à l'histoire de son grand-père ou de sa grand-mère. Mais c'est une expérience très forte émotionnellement dont les personnalités ressortent bouleversées. Et évidemment, pour le téléspectateur, il y a de l'identification. Et donc, c'est un programme très concernant et qui permet de traiter l'histoire de façon concrète et accessible.
Je suis entièrement d'accord. On a ainsi vu Clémentine Célarier descendre d'un célèbre chevalier du Moyen-Âge, du Guéclin, François Berléand se découvrir un grand-parent juif, et c'est ce soir au tour de Franck Dubosc d'enquêter sur son grand-père maternel. Alors, on l'a certes beaucoup vu, ça peut être un handicap, mais je vous assure, il surprend encore par sa tenue et sa retenue. Il est formidable, il n'en fait jamais trop. Alors, que voulait-il savoir?
Bah oui, c'est la question.
Eh bien, si son grand-père maternel s'était bien évadé à plusieurs reprises, comme il l'avait raconté lorsqu'il était enfant, Marie Drucker l'aide à mener l'enquête, et c'est un vrai polar.
Je me souviens d'une chose qu'il m'a raconté. On lui a demandé comme on demandait à tous les soldats, d'écrire dans son dos, sur son habit de militaire,
cagé,
prisonnier de guerre en allemand. Un jour, un soldat allemand lui a amené un seau de peinture pour qu'il peigne, cagé derrière, et lui a refusé, pris le seau, l'a jeté sur son dos, et il a passé tout son temps après avec sa grande gabardine et une tache de blanc. C'est pour ça que c'est un héros pour moi.
Qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'a pas inventé toutes les histoires qu'il racontait au petit garçon que vous étiez ?
Rien. Mon envie d'y croire. Mon grand-père, son grand drame, c'était de s'être évadé et qu'il ne soit pas reconnu comme ancien combattant, puisqu'il n'était pas sur les listes. Et donc, il n'avait pas de médaille et il voulait avoir sa médaille d'ancien combattant.
Oui, c'est une vraie enquête affective et historique.
Absolument. Et voilà. Je ne vous raconte pas la suite parce que vraiment, la suite, c'est un polar. Et c'est bouleversant pour sa mère à la fin. Même j'ai adoré, moi.
Bon, ben voilà. On a pris nos rendez-vous pour ce soir. Et dans quelques instants, on va parler bande dessinée. Ce sera avec Arnaud Mulpa. Bande dessinée, mais aussi cinéma, puisque le prix RTL du mois de mai récompense un album de Nadar et Julien Frey qui est intitulé « Avec Edouard Louns, le cinéaste des âmes inquiètes ». A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Il est 9h21, nous allons parler bande dessinée à présent avec vous Arnaud Mulpa. Bonjour Arnaud.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On parle BD mais aussi cinéma, je l'évoquais il y a quelques instants, puisque le prix RTL du mois de mai récompense un album de Nadar et de Julien Frey intitulé « Avec Edouard Louns, le cinéaste des âmes inquiètes ».
Oui, et si le nom d'Edouard Louns ne vous dit pas grand-chose, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. L'histoire débute il y a 20 ans, Julien Frey est alors un jeune étudiant en cinéma, il cherche un financement pour réaliser un court-métrage. Et le seul producteur qui accepte de le rencontrer est donc un certain Edouard Louns, un type dont lui non plus n'a jamais entendu parler.
Quand je le vois arriver, moi je m'attends à la caricature du producteur. Et je vois arriver ce monsieur un peu âgé, et qui va pas très bien, et qui me dit qu'il a plus un rond et qu'il a pas produit de film depuis 20 ans, mais qu'il espère bien en faire un avec moi. Et il me raconte en même temps son histoire. Et tout ça est un peu fouillis, quoi. Il me dit qu'il est allé à Cannes, mais que sa carrière a été brisée par la 20th Century Fox. Et du haut de mes 20 ans, un peu prétentieux, je me dis « Oulala, qu'est-ce que c'est que ce monsieur ?» Et je ne le rappelle pas.
Et Julien Frey ne fera donc jamais de film. Il est devenu depuis scénariste, pour la télé et la bande dessinée. Et ce n'est que des années plus tard qu'il apprend que l'histoire de Louns est vraie. Louns a bien été réalisateur dans les années 60 de plusieurs films, notamment « Les Cœurs Verts » ou « Le Dernier Saut » en compétition à Cannes en 1970. Il a fait tourner Jeanne Moreau, Michel Bouquet, avant de complètement tomber dans l'oubli. Il est décédé en 2009 et Julien Frey, regrettant un peu tard ce rendez-vous manqué, va se mettre en quête de retrouver les films de Louns.
En magasin, on m'avait dit « bah non, ils n'existent pas ». Puis là, je me suis dit « bon, aujourd'hui, je vais les trouver de façon légale ou illégale, mais je vais les trouver ». Et je m'aperçois assez vite que c'est pas possible, que même quand j'appelle la Cinémathèque, on ne sait pas qui est Edouard Louns. Donc je me dis, il y a un problème, quoi. Et c'est quand j'arrive à trouver le premier film, Enfant des courants d'air, que je prends vraiment une claque, que je me dis, oula, il y a sans doute quelque chose à écrire. Je veux comprendre comment on peut avoir autant de talent et être aussi oublié.
Alors pourquoi ces films ont disparu ? La suite est une enquête passionnante dans les arcanes du cinéma. Julien Frey arpente les archives du 7e art, part à la rencontre des proches de Louns. Il va interroger son fils, ses anciens collaborateurs, certains acteurs, notamment Gérard Zimmerman, Dizim ou Michel Bouquet. Tout ça est dessiné par Nadar, en noir et blanc, comme le premier film de Louns. Et au fil des 180 pages, on a l'impression de lire un polar dont les victimes seraient en fait les films de cinéma.
Alors va-t-on découvrir qui est coupable de ces disparitions ?
Bah écoutez, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a un film qui est au cœur de l'intrigue, c'est Le Grabuge, film de 1968, produit par la 20th Century Fox. Le tournage a lieu au Brésil, il ne se passe pas tout à fait comme prévu. Sur place, l'équipe se laisse un peu griser par la vie nocturne. Louns ajoute des scènes, il en supprime d'autres, le budget explose et à l'arrivée, le réalisateur livre une version de 3 heures qui ne plaît pas du tout au patron de la Fox.
Il a viré Louns et il a dit « c'est moi qui vais décider du montage ». Et ça, c'était une vision américaine. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Aux États-Unis, le réalisateur est un technicien. Pas comme chez nous, l'auteur du film. Et Louns n'était pas du genre à se laisser faire, donc il a intenté un procès. Il s'est défendu lui-même, hein, il n'avait pas d'avocat. Et il l'a tellement bien fait qu'il a gagné. Et ce procès a fait aussi jurisprudence, parce que c'est grâce à cette histoire qu'aujourd'hui en France, le réalisateur a son mot à dire sur la version définitive du film.
Louns a gagné son procès, mais il a perdu son film. La Fox, dans l'intervalle, s'est arrangée pour faire disparaître la version originale. Et jusqu'à la fin de sa vie, Edouard Louns en a été très affecté. Écoutez encore Julien Frey.
Il était hanté par cette idée-là, parce que Le Grabuge, c'était son Apocalypse Now, quoi. C'était un tournage incroyable. Il y avait mis toute son énergie et il est resté sur ça. Et même en faisant ses autres films, il repensait au grabuge. Et je pense que peut-être aussi il espérait pouvoir ressortir le film un jour dans la version initiale.
Voilà, l'étonnant destin d'Edouard Luns. Vous ne pourrez plus dire « je ne le connais pas ». Je vous recommande la lecture de cet album signé Julien Frey et Nadar, le titre exact avec Edouard Luns, le cinéaste des âmes inquiètes et l'éditeur Futuropolis.
Merci beaucoup.
Moi j'ai adoré.
Arnaud Mulpa,
Il a testé sur moi Arnaud en me demandant évidemment si je connaissais. Ah oui. J'ai dit évidemment non. Et j'ai commencé à feuilleter le livre à côté de lui. Je trouvais les dessins géniaux. Pourtant, j'aime pas les dessins noir et blanc pour la BD. Et j'ai trouvé ça mais ultra passionnant. Pardon, mais ça m'a tellement plu.
Vous avez le certificat de sortie, placé par Isabelle Morini-Bosque. On se retrouve dans un instant, on va se dire au revoir. Je ne dis pas qu'on réécoutera pas un petit peu de Parisienne, on va voir. Julien Courbet. Mais mettez-moi de côté Boom Bang Bang, j'adore ça.
Ah oui.
Voilà. On va bien réécouter les Parisiennes, s'il vous plaît, avant de nous séparer. Ariel Dombal, Mareva Galanter, Ina Modja et Elena Noguera. On a envie d'être amoureux d'elle et d'ailleurs tout simplement au lait. Et bien entendu, chansons de Claude Bouling, elles sont sur scène aux Folies Bergères. Je vous le rappelle, on a passé un excellent moment grâce à Steven Bellery. Je vous rappelle aussi que notre ami Laurent Gérard est désormais donc au Palais des Sports. Bref, vous avez de quoi passer de merveilleuses soirées à Paris. Et puis on vient d'apprendre une toute dernière information concernant Pierre Bellemare.
Ouais, ses obsèques, ce sera jeudi à 10h30 en l'église Saint-Roch et son fils Pierre Dostel annonce qu'elles seront ouvertes à tous.
Voilà, merci beaucoup à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Maintenant, on va retrouver notre Julien Courbet.
Comment allez-vous, mon Yves ?
Bien, vous savez, dès que vous êtes là, on est heureux, nous.
Vous écoutez RTL.